Félix Tshisekedi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff Ngoy.
Est-ce que l'UDPS va participer au dialogue politique que vient d'annoncer le chef de l'État, qui le veut inclusif?
L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc, un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas, et lui le sait d'ailleurs, parce que nous avions eu deux rounds de pré-discussion avant le dialogue, donc il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or, nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila.
Mais dans l'ordonnance du chef de l'État, il fait allusion à une facilitation internationale.
Oui, mais nous n'avons pas encore la réponse. Donc je crois qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait laisser à la communauté internationale, donc ici en l'occurrence au secrétaire général de l'ONU, que M. Kabila a saisi d'ailleurs aussi, de désigner un facilitateur. Et c'est autour de celui-ci que nous étions convenus de mettre en place justement le dispositif pour aller à ce dialogue. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose. D'autant plus que dans son discours, M. Kabila a été totalement aphone sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique. Par contre, il est allé sur une dérive dangereuse en évoquant éventuellement un changement de mode de scrutin pour, soi-disant, économiser les frais des élections. Mais on se demande bien pourquoi se réveille-t-il 15 ans après sa prise de pouvoir pour commencer à parler de cela, alors que dans un an, son mandat se terminerait. Ou alors il peut lancer l'idée pour que les législatures à venir continuent à y réfléchir sans lui. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons que c'est fait à dessein, le but étant évidemment de modifier la Constitution et de pérenniser son règne. Et nous disons non à cela.
Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller lui en parler de vive voix au cours de ces dialogues?
Oui, mais pas un dialogue organisé à sa manière. Donc nous savions, déjà même en allant à ce dialogue tel que la communauté internationale le préconise, que nous aurions à faire face à son camp, à leur façon de voir les choses. Donc, mais ça ne nous faisait pas peur dans la manière où c'est un débat démocratique qui doit avoir lieu dans ce pays. Mais à partir du moment où il faut aller à un dialogue où tout est orchestré, tout est minutieusement boutiqué, j'allais dire, pour bénéficier à Joseph Kabila, nous disons non, nous n'allons pas l'accompagner dans ce schéma-là. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir au bon sens, accepter donc la désignation de ce facilitateur autour de qui nous allons articuler justement l'organisation de ce dialogue, et ensuite on ira discuter sous l'égide toujours de ce représentant de la communauté internationale.
Est-ce que le temps de dialoguer s'y prête encore actuellement?
Oui, en tout cas, c'est vrai que nous arrivons limite. C'est pour ça d'ailleurs, si vous vous souvenez, l'UDPS avait parlé d'un ultimatum, parce que selon nos experts, on entrait vraiment dans une zone rouge, au-delà de laquelle ce ne serait plus possible d'organiser des élections dans les standards internationaux. Donc là, nous disons encore une fois, nous sommes d'accord que nous sommes en train de vraiment d'arriver à la ligne rouge, et c'est pour ça que nous lançons un appel pressant à la communauté internationale afin que celle-ci, qu'elle s'implique instamment de manière plus ou moins rapide et nous amène à des discussions.
Est-ce que cette ligne rouge n'est pas déjà franchie, puisque en son temps, vous aviez même donné un ultimatum qui allait expirer le 30 novembre?
Voilà pourquoi plus que jamais l'implication de la communauté internationale est nécessaire, parce que avec elle, nous pourrons, avec ses experts, etc., voir quelles sont les élections qui sont encore possibles à tenir d'ici 2016.
Accepteriez-vous de participer à ces dialogues pour combien de temps et pour s'attaquer à quelles priorités?
La priorité sera d'abord d'expertiser la période qui nous reste jusqu'à l'échéance prévue par la Constitution et voir quelles sont les élections qui seront en mesure d'être organisées, sachant bien que la priorité pour nous, et même j'ai cru comprendre pour la communauté internationale, c'est de commencer par les présidentielles et les législatives. Donc à partir du moment où nous savons que cela est possible, nous nous lançons dans les discussions. Et lorsque, si les faits constatent par exemple que cela ne sera pas possible d'être organisé, il faudra aviser. Donc c'est-à-dire, nous irons quand même jusqu'à la fin du mandat de M. Kabila, et après, il faudrait imaginer une période de transition par exemple, qui serait dirigée par des technocrates, qui eux n'auront rien à voir avec les élections, et dont la mission sera uniquement de préparer des élections libres et démocratiques.
Ce sera déjà le glissement que tout le monde redoute.
Oui, le glissement, mais sans Kabila, parce que c'est lui d'ailleurs le premier responsable. Ce sera...
oh, la Constitution dit qu'il reste en place jusqu'à la...
Il dit qu'il n'a que 5 ans. Donc maintenant, qui a raison? Quand on dit qu'il n'a que 5 ans ou quand on dit qu'il peut continuer. Sinon,
continue jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président élu.
Alors, dans ce cas, dans 10 ans, on pourra toujours être là et il va dire il n'y a pas encore de président élu, donc je suis encore le président. Non, ça, je crois que ce passage-là, en fait, était fait pour, on va dire, organiser la transition qu'il y a entre le moment où il y a eu élection d'un président et le moment où celui-ci entre réellement en activité. C'est pour ça qu'on a dit celui qui est là, le sortant, reste. Mais le mandat présidentiel en République démocratique du Congo est de 5 ans et ce n'est pas négociable.
Il y a plusieurs langages contradictoires au sein de l'UDPS, à tel point qu'on se demande qui est habilité à engager le parti. Est-ce que ce que vous dites maintenant là ne sera pas contredit par le secrétaire général de l'UDPS ou par un autre cadre du parti? Et qu'est-ce qui nous garantit que ce que vous dites reste des paroles auxquelles on doit s'en tenir?
Vous savez, moi je suis cadre de l'UDPS. Je ne suis pas son porte-parole. J'essaye, dans la mesure du possible, de me conformer à la position du parti. C'est une position que je connais parce que j'y ai contribué aussi, donc de manière intellectuelle, j'allais dire. Donc je sais que c'est ça notre position. J'ai eu des discussions avec le président et autour du président, avec le secrétaire général et ses adjoints. Et donc je connais la position de l'UDPS que je dis ici. Alors je pense que, d'ailleurs, il y a un communiqué du président qui est venu confirmer ce que je suis en train de dire.
Il ne pourra pas être contredit par un autre cadre.
Je ne peux pas vous le garantir parce que vous savez que ce soit à l'UDPS comme ailleurs, les brebis galeuses, les infiltrés, que sais-je encore, existent. Malheureusement, je pense qu'il faudrait commencer à sanctionner dans notre parti le genre de dérapage.
Et chez vous, vous ne sanctionnez pas, vous diabolisez seulement.
Il y a une ligne, oui, c'est ce qui est regrettable. Il y a une ligne de conduite qui a été imprimée, qui a été donnée. Mais cette ligne de conduite doit être respectée par tout le monde. Moi, j'essaye de la respecter.
Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Diaf Ngoyi.